explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, chaque été, part en famille sillonner la Grèce, la Crète et les plus belles îles de la mer Égée. Parmi les plaisirs de ses vacances, il y a les baignades en bord de mer. Il aime tout particulièrement retenir son souffle le temps de plongées exploratoires pour tenter d'apercevoir au fond de leur terrier des poulpes. Cet animal l'intrigue et l'effraie un peu aussi. Plus il l'observe, plus il est perplexe. Comment peut-on vivre avec les bras et les jambes attachés directement à la tête? Comment cet animal, avec son corps tout mou, parvient-il à manger des crabes ou des coquillages? Et comment fait-il pour changer si soudainement de couleur? Près de 40 ans plus tard, notre petit garçon, Ludovic Dickel, a grandi, mais sa curiosité ne l'a pas quitté. Il est devenu scientifique. Et devinez quoi? Il se consacre à l'étude des poulpes et de leurs cousins, les seiches et les calmars. Maintenant qu'il est devenu l'un des plus grands connaisseurs de ces animaux, il se pose encore plus de questions à leur sujet, sur leur intelligence, leur mémoire, leur aptitude à ressentir des émotions, la façon dont ils perçoivent leur environnement. Ludovic Dickel raconte sa passion pour les céphalopodes et les dernières découvertes scientifiques à leur sujet dans un livre passionnant intitulé « À la rencontre du poulpe » aux éditions Alpha. Cet après-midi, il nous emmène à la découverte de cet animal fascinant que l'on surnomme le seigneur des profondeurs. Louise Cognard a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui, Élise Christophe. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Les gens trouvent souvent que les pieuvres ressemblent à des extraterrestres. Mais bizarrement, si on les observe mieux, elles ont beaucoup de points communs avec nous.
Quand on échange un regard avec une pieuvre, on vit un moment unique.
On pénètre dans un monde complètement différent.
Je ressens leur volonté d'échanger avec nous, d'en apprendre plus sur nous. Elles sont d'une grande curiosité. Peut-être qu'elles ne sont pas si différentes de nous, après tout.
Bonjour Ludovic Dickel.
Bonjour Daniel Fievé.
Nous venons d'entendre les voix d'un plongeur, Craig Foster, et d'une plongeuse, Crystal Janity, qui témoignaient de l'intensité de leur rencontre avec des pieuvres. Alors ils parlent à la fois de points communs et puis d'un monde radicalement différent du nôtre. Vous avez déjà ressenti ce qu'ils décrivent au contact de ces animaux, Ludovic Dickel?
Ah oui, ils en parlent parfaitement bien. C'est vraiment, sont vraiment des animaux qui se rapprochent le plus de ce qu'on peut imaginer être des extraterrestres. C'est complètement en dehors de ce qu'on peut imaginer. On a beaucoup de mal à se mettre à leur place.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant avec ces animaux, c'est que dans le règne du vivant, ils sont très éloignés de nous. Hein. C'est-à-dire que ce sont des mollusques, un corps mou, voilà leur plus proches cousins, ce sont les huîtres, les moules, et en même temps, ils font preuve d'une intelligence manifestement plus développée, même si c'est toujours difficile d'évaluer l'intelligence d'un animal, mais manifestement plus développée que celle d'une huître, et d'une curiosité. Vous avez ressenti cette curiosité à votre égard en côtoyant ces animaux?
Ça, c'est extraordinaire. On a l'impression, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui nous donne des sentiments un petit peu artificiels. Hein. On est un petit peu déformé. Mais quand on voit un animal s'approcher de nous, on a toujours l'impression qu'il a une forme d'attachement pour l'humain. Et c'est le cas pour la pieuvre, parce qu'une pieuvre est très curieuse. Donc quand on la voit pour la première fois, il y a certains individus qui ont tendance à s'approcher. Donc soit elle veut nous attaquer, soit elle est attachée à nous. Donc c'est la première chose à laquelle on pense. Hein.
Ouais. Je le disais en introduction, votre curiosité à vous pour ces animaux, elle remonte à l'enfance. C'est-à-dire que vraiment vous vous souvenez avoir été intrigué, être allé à la rencontre de ces animaux, particulièrement ces petits poulpes.
Ah oui, c'est la peur qui m'a attiré d'abord. Hein. Les premiers contacts sont bassés, c'est un animal qui est serpentiforme. C'est vrai, quand on le voit dans l'eau, on n'arrive pas à le dessiner, on n'arrive pas à lui donner une forme, il prend toutes les formes. Et puis quand on le touche, quand on arrive à le toucher, c'est quand même un animal qui est un petit peu... le contact est pas très agréable. Hein.
Ouais. Donc c'est quoi, c'est visqueux, c'est
un contact qui s'échappe. Hein. Ouais. Donc à la fois c'est un animal qui est attachant parce qu'il est curieux, donc on a l'impression qu'il nous regarde, on a l'impression qu'il a envie de s'approcher, et à la fois quand on essaie de le toucher, il disparaît. C'est une absence, une pieuvre un peu quand on est petit.
Ah oui.
Donc tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu fantomatique, ça captive.
Et il y a quelque chose que je trouve très très joliment dit dans votre ouvrage. Alors vous bombardez votre père, qui était naturaliste, de questions au sujet de ces petits poulpes que vous croisez. Ces réponses en allument plein d'autres, finalement, plein d'autres questions. Et vous dites, avec une jolie formule, que ces questions, c'est comme des flamèches, des débuts d'incendie, et que finalement, toute votre vie, vous essayez d'éteindre ces débuts d'incendie, et il s'en allume de nouveau, d'autres.
Ouais, non, c'est exactement ça. Plus on s'approche de l'animal, les premiers contacts sont très symboliques, hein. Plus on s'approche de l'animal, plus il s'éloigne de nous, plus on a l'impression de trouver des réponses aux questions qu'on se pose, plus on se rend compte que les choses sont plus complexes. Mais c'est un petit peu le cas pour tous les chercheurs, hein, à propos de tous leurs modèles. Mais chez la pieuvre en particulier, ça, j'ai jamais, la relation qu'on a avec ces animaux ne change pas entre l'enfance et puis le vieux chercheur.
Je crois que c'est ça. La même. Oui, entre le petit garçon qui allait titiller les pieuvres au fond de leur terrier, et aujourd'hui, après 30 années à les étudier, vous avez toujours cette naïveté et cette curiosité d'enfant face à ces animaux.
J'ai pas l'impression de les connaître. Ouais. J'ai pas l'impression de les connaître plus et d'être un expert en poulpe plus que quand j'avais 7 ans.
Pourtant si, hein. Pourtant vous êtes l'un des plus grands experts dans ce domaine. Alors à quoi ressemble le cerveau d'une pieuvre? Déjà, c'est très différent de la façon dont notre cerveau est organisé.
Hein. Donc c'est un mollusque. Hein. Ouais. Donc il a un plan d'organisation de mollusque. Et chez les mollusques, chez ses cousins, les escargots, le système nerveux, il y a des petits îlots de système nerveux qu'on appelle des ganglions, et les ganglions sont dispatchés un petit peu dans tout le corps. C'est un peu ça. Donc le système est très
un cerveau délocalisé, en quelque sorte.
Complètement délocalisé chez beaucoup de mollusques et chez tous les mollusques. Chez les céphalopodes, on a l'impression que tous les ganglions des autres mollusques se sont donné rendez-vous entre les yeux.
Ouais.
Donc ils se sont concentrés entre les yeux pour former un véritable cerveau. Mais quand on regarde le cerveau, on se rend compte qu'il ressemble pas du tout au nôtre.
Et il y a quand même encore des sortes de petits cerveaux secondaires dans chaque bras, dans chaque tentacule, ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on a vraiment du mal à réfléchir à comment cet animal peut penser. Chaque tentacule a une forme d'autonomie.
On dit un bras, hein, pour un poulpe, mais ouais. le bras du poulpe est plus autonome que le bras d'un humain. Parce que il a une forme d'autonomie. Donc il y a le cerveau fait office de grand chef, général en chef. Et puis il y a des ganglions. Alors c'est très hiérarchique. Il y a des ganglions qui vont, ça c'est un héritage des autres mollusques, qui vont se dispatcher dans le corps avec des gros ganglions, par exemple comme à la base des bras, qui vont avoir une certaine forme d'autonomie, mais qui sont sous la responsabilité et la commande du grand chef.
Ouais.
Donc quand ils sont tout seuls, ils arrivent quand même à faire certaines choses, mais c'est eux qui envoient les informations les plus pertinentes au cerveau principal, et c'est eux qui reçoivent les instructions du cerveau principal.
Alors avec cette organisation-là, les pieuvres, les poulpes sont capables, par exemple, d'ouvrir un bocal. On a tous vu, hein, ces images, c'est assez spectaculaire.
C'est extraordinaire, parce que c'est je pense qu'un bocal avec un bouchon qui est vissé.
Ouais.
Je pense qu'on donne ça à un chimpanzé, je suis pas sûr qu'il y arrive aussi vite qu'un poulpe. Un poulpe, pour lui, c'est un problème qui pose pas beaucoup de difficultés. Donc, qui a toujours été mis en avant et qui a toujours symbolisé l'intelligence du poulpe et ses capacités d'innovation, de résolution de problèmes. Simplement, quand on fait l'expérience soi-même, on se rend compte que le poulpe va de toute façon ouvrir un bocal qu'on lui présente. Dans l'expérience classique, dans le bocal, il y a un crabe. Donc on se dit, le poulpe fait l'hypothèse que s'il arrive à ouvrir le bocal, il va avoir accès au crabe qui est à l'intérieur. Le poulpe se nourrit de crabe. Mais quand on lui donne un bocal vide...
Il l'ouvre quand même.
Il l'ouvre aussi.
Ouais. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi il l'ouvre. Ben, curiosité.
On, ouais. on devine. Moi, je me mets à la place du poulpe, si c'est possible.
Ouais, hein. ouais.
Qui se nourrit de bivalves, hein, il se nourrit de coquillages. Son principal problème dans la vie, c'est d'ouvrir les deux coquilles des coquillages. Hein.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose qui fait que quand il sent, quand il prend un objet et qu'il sent que l'objet est composé de deux parties qui bougent très légèrement l'une par rapport à l'autre, il tire. Il écarte tout. Vous lui donnez des Legos, vous lui donnez des tubes, n'importe quel montage, il va tout éparpiller, il va...
Donc
il va tout démonter.
Vous voulez dire par là qu'il y a presque une sorte d'activité réflexe, peut-être qu'il ne faut pas y voir plus de stratégie que ça ?
C'est une partie du raisonnement que j'ai, c'est-à-dire l'évolution lui a donné cette capacité. Maintenant, ce comportement d'ouvrir des bivalves est beaucoup plus sophistiqué, puisque quand vous voulez ouvrir des huîtres, par exemple, vous allez utiliser un petit couteau à huîtres et vous allez chercher le muscle qui referme pour essayer de couper ce muscle-là. Ouais. La pieuvre va utiliser une salive toxique qui est neurotoxique, donc qui va paralyser le muscle, et elle va aller faire un petit trou à l'endroit où se trouve le muscle qui referme les coquillages. Donc on voit très bien sur les coquillages qui ont été consommés par les poulpes qu'il y a des petits trous. Donc elle se sert de sa force pour ouvrir le coquillage, mais elle utilise des stratégies pour se faciliter la tâche. Mmh. Et le fait de mettre du venin
à un endroit
juste
précisément,
à l'endroit,
c'est de la chirurgie là. Hein, c'est quasiment de la chirurgie.
Et elle apprend quand elle est petite. Elle sait pas à la naissance. Hein. Elle fait des trous au début un petit peu partout, et puis petit à petit au cours du développement, on voit que les trous se précisent.
Elle est aussi capable de s'échapper de son aquarium. Ça montre aussi une capacité d'ingéniosité et de stratégie.
Hein. Ah, ça ressemble beaucoup à l'humain quand même. Hein.
Eh oui.
Simplement, si on avait une forme de poulpe, on arriverait à le faire beaucoup plus efficacement, puisque elle peut s'échapper à peu près de n'importe où. Hein. Il suffit que l'ouverture, à peu près la taille de ce qui correspond au cartilage autour de son cerveau et de son bec. Hein. Un petit bec. Un petit bec chitineux, et donc elle peut s'échapper de n'importe quel endroit. C'est terrible comme animal domestique.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper gaffe quand on en a dans les laboratoires. Si on ferme mal l'aquarium, elle se fait la malle.
Ah, si vous en avez un chez vous, il va disparaître. Là, il a disparu s'il était là ce matin.
Ouais.
Et ça nous est arrivé.
Alors, mais il va où? Il ne peut pas sortir de... Il ne peut pas évoluer hors de l'eau?
Ils sont très actifs la nuit. Donc quand on oublie de fermer quelque chose, quand on laisse un tuyau ouvert... la nuit, souvent le matin, on le trouve plus.
Mais on les retrouve où alors ?
Alors nous, il nous est arrivé d'en perdre des poulpes qui s'échappent, c'est arrivé, d'en retrouver dans les canalisations de mer, par exemple.
Ah ouais. Bon, en conditions naturelles, hein, hors des laboratoires, les poulpes doivent faire face à de multiples situations et improviser. Voici un exemple.
Sa cachette faite de coquilles de palourdes est enfouie dans le sable. À l'abri. Une crevette mante a élu domicile juste en face. La pieuvre mangerait avec plaisir sa nouvelle petite voisine. Malgré sa petite taille, la crevette mante est extrêmement agressive et détient le record de la frappe la plus rapide du règne animal. Vous voyez cette patte repliée vers l'avant avec une extrémité blanche en forme de massue ? C'est la posture de combat qu'elle adopte afin de défier un adversaire. La frappe surpuissante de cette crevette mante peut tuer un animal bien plus imposant qu'elle, aussi rapide qu'une balle de fusil. Il vient une idée à la pieuvre. Elle récupère les murs de sa maison afin de leur trouver une nouvelle utilité. Elle s'est improvisée un bouclier.
Extrait du documentaire « Les secrets des pieuvres ». Ça demande, là encore, une capacité d'analyse de la situation. Il ne s'agit pas d'un comportement réflexe. Et est-ce qu'on peut parler, là, dans cette façon d'utiliser un coquillage pour en faire un bouclier, d'utilisation d'outils par le poulpe, Ludovic Dickel ?
Oui, c'est, dans la littérature, c'est ce qu'on fait. Les poulpes ont pour faiblesse de ne pas avoir de carapace par rapport aux autres mollusques. Donc il y a beaucoup en fonction des opportunités, ils vont en trouver. Hein. Ça peut être des noix de coco, ça peut être des coquilles d'autres mollusques. Et puis quand ils sont dans leur trou, ils ferment la porte du trou en utilisant différents objets. Typiquement, c'est de l'utilisation. On peut considérer que c'est de l'utilisation de l'outil à partir du moment où le poulpe va transporter l'objet qu'il a trouvé qui lui sert d'un endroit à un autre. Donc ça veut dire qu'il va anticiper l'utilisation de cet objet-là. Ouais. Il le fait avec les noix de coco.
Ouais. Bon, l'intelligence n'est pas à démontrer. Vous dites quand même dans votre ouvrage que dresser un poulpe rend fou. Pour quelle raison, Ludovic Dickel ?
Je sais pas si je pense que le poulpe est intelligent parce que il me semble intelligent parce que c'est un animal qui en fait qu'à sa tête.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand on lui propose un apprentissage, même simple, d'un jour à l'autre, il va y arriver de mieux en mieux, puis au bout de 3-4 jours, il peut d'un seul coup avoir choisi de faire autre chose.
Mais c'est une forme d'intelligence, en fait. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas... Il a une forme d'autonomie et de dire « vous m'ennuyez avec votre apprentissage » à un moment donné.
Pour moi, c'est la forme d'intelligence. C'est-à-dire, il ne met pas son attention là où on voudrait qu'il la porte. On peut très bien lui le tester avec lui apprendre à prendre un objet avec une récompense, par exemple. Mais s'il a envie, si son attention est attirée par autre chose, il va faire autre chose exactement comme un chat.
Oui, c'est ça.
Qui est beaucoup plus difficile à dresser que d'autres animaux.
Ouais. Allez, nous partons bivouaquer au fond de l'océan à la rencontre des poulpes, calmars, sèches et autres céphalopodes avec le biologiste Ludovic Dickel cet après-midi sur France Inter. C'était Angelo De Augustine qui chantait Song of the Siren sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cris menaçants, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dards, pas de pinces, pas de queue prenante ou contondante, pas d'ailerons tranchants, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est, de toutes les bêtes, la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre ? C'est la ventouse.
Extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, lu par Jean-Claude Amezen. Notre invité Ludovic Dickel est l'auteur de « À la rencontre du poulpe » aux éditions Alpha. Le nom pieuvre a été popularisé par Victor Hugo, Ludovic Dickel.
Oui, c'est un nom vernaculaire normand, ouais. Et qui a maintenant qui a été accepté à peu près dans toute l'Europe. Hein. Ouais. Donc pieuvre, poulpe, polype, tout ça c'est le même animal.
C'est le même animal. Et ce qui est intéressant, là, alors il dit, il y a quelques inexactitudes dans le texte de Victor Hugo parce qu'il dit que la pieuvre n'a pas de bec. Or vous nous avez dit, elle a un bec hein, pour manger, c'est la seule partie un peu dure de son corps, c'est son bec qui lui permet d'attaquer peut-être les crabes notamment.
Ouais, mais Victor Hugo n'a pas complètement tort parce que le bec est vraiment utilisé comme c'est une seringue. Ouais. Même les très gros poulpes, les morsures des très gros poulpes font des toutes petites entailles, c'est complètement insignifiant. Ouais. C'est pas ce qui rend l'animal terrible. Ouais. En fait.
Vous trouvez que c'est très bien vu la façon dont il décrit justement cet animal ?
C'est absolument génial. Je trouve que dans toute la description de Victor Hugo, ce qu'on en retire, c'est que c'est l'absence, c'est le vide symbolisé par le poulpe qui est terrifiant. Et quand on regarde les films de monstres et d'horreurs maintenant, ouais. Alien, etc., Les Dents de la Mer, ce sont des films qui sont terrifiants parce que le monstre, on le voit très peu. Ouais. En fait, l'absence de monstre fait beaucoup plus peur que la présence. Et la pieuvre est décrite par Victor Hugo comme un monstre qui est absent en substance.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez évanescent dans cet animal, puisque si on l'observe dans les océans, il a une forme, une façon d'évoluer, et dès qu'on le sort de l'eau et qu'on le voit suspendu, notamment, quand on va chez le poissonnier, on peut voir des poulpes, il n'a plus du tout la même allure.
Oui, il se transforme en sac vide, en fait. Ouais. Comme si c'est un petit peu fascinant quand on est enfant et qu'on voit des poulpes dans la nature et qu'on les voit sur des marchés en train de sécher sur un fil et on nous dit c'est le même animal, c'est pas possible. Ouais. En fait, on comprend pas. Ouais. On voit pas le lien.
Alors, Victor Hugo l'a décrit de façon terrifiante, cet animal. Est-ce que les poulpes peuvent être réellement dangereux ? Ne serait-ce que, alors, quand on se baigne, on peut sentir le bras, vous m'avez dit, il faut pas dire tentacule, le bras qui s'enroule autour du pied. C'est juste de la curiosité ou c'est un début d'agression, ça ?
Non, c'est de la curiosité. Il y a très peu d'accidents, je crois, moins d'une dizaine par an, dus aux poulpes. Mmh. Et les poulpes les plus dangereux ne sont pas les plus gros. Ouais. Ce sont les petits poulpes australiens et indonésiens, qu'on ouais. appelle le poulpe à anneaux bleus, qui ont de la tétrodotoxine, c'est une toxine qui est extrêmement puissante, c'est 1000 fois plus puissant que le cyanure.
Ouais. Donc là, on n'y réchappe pas, on a une injection de ce poison par un voilà. poulpe.
Mais avec un petit bec, quand il mord, on meurt. Ouais. Mais pour qu'il morde, il faut vraiment le manipuler, parce qu'il envoie des signaux avant. Mmh. Il devient tout bleu. Ouais. Quand il devient tout bleu, on le lâche. Hein. Ouais. Et là, il y en a qui...
qui connaissent pas la règle du jeu.
Ah, voilà.
Et ça, ils l'apprennent trop tard, à leur dépens. Comment les poulpes perçoivent-ils le monde ? Là aussi, c'est une façon, c'est un rapport au monde très différent d'une autre. On peut parler des yeux, déjà. Que voit ? Alors, vous dites que ça a un regard très expressif, presque un peu humain, hein, le poulpe. C'est lié à quoi, ça ?
Oui, parce qu'il a des petits... Voilà, d'une part, il a des yeux qui ressemblent complètement aux nôtres. Hein. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Ouais. Les poulpes, les ancêtres des poulpes, nos ancêtres communs entre les poulpes et l'humain ont 570 millions d'années. Mmh. Ça veut dire que notre espèce et leur espèce n'ont pas discuté depuis 570 millions d'années. Et on ouais. voit chez nous et chez eux des organes qui se ressemblent énormément. Ça veut dire que l'œil tel que le nôtre est constitué, le camérulaire, c'est une très bonne solution en fait qui était choisie par par différents groupes.
Donc l'évolution a abouti au même dispositif de façon indépendante en quelque sorte.
Donc ça,
on se retrouve 570 millions d'années après la séparation.
Et là, on se retrouve, on rediscute et toi, tu as développé un œil, on a le même.
Ouais.
C'est quand même assez étonnant.
C'est fou.
Et on a le même raisonnement pour l'intelligence et pour la cognition. Mmh. Quand on se pose des questions sur l'apprentissage, sur la mémoire, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des convergences comme ça, d'espèces qui n'ont pas discuté depuis longtemps, qui n'ont pas du tout le même cerveau et qui vont montrer des règles, des principes généraux.
Alors, ils peuvent faire quelque chose. Là, pour le coup, nous, dans l'évolution, on n'a pas du tout été vers ça. Ils goûtent avec leur ventouse. En fait, leur peau leur permet vraiment d'analyser, de sentir, de voir presque leur environnement.
Ah, ça me rend jaloux.
Parce oui, que c'est ça.
Ce serait extraordinaire de pouvoir faire nos courses et d'aller choisir des oranges ou des citrons en les touchant et en les goûtant. Oui, ils peuvent toucher, ils peuvent goûter, analyser même chimiquement ce qu'ils touchent avec leur ventouse. Ils arrivent à analyser, par exemple, à reconnaître des proies en fonction des populations microbiennes qui sont présentes sur la carapace des crabes ou des proies. Donc ils peuvent analyser ça, ils reconnaissent des proies à partir de ça. Ils sont très très doués pour ça.
Ouais. Et ils ont cette perception très fine de leur environnement qui leur permet aussi d'avoir cette capacité à se camoufler, à se fondre dans leur environnement. Et ça, c'est absolument bluffant, la façon dont un poulpe peut transformer sa peau. Mais on parle de la couleur, on parle des motifs, on parle de la texture.
Alors ça, c'est un grand mystère qu'on essaie de... Il y a beaucoup d'équipes dans le monde, enfin beaucoup, quelques équipes dans le monde.
Dont vous êtes.
dont on est un petit peu, qui essaient de percer ce mystère-là. Quand on dit qu'une pieuvre ou qu'une sèche imite le fond sur lequel elle est, c'est vrai que quand vous les voyez en plongée, on a l'impression qu'elles font partie du décor.
Ouais.
On ne les voit pas. Il nous est arrivé souvent de plonger et d'en voir aucune. On sait qu'elles sont là, mais on les voit pas. Comment elles font pour imiter le fond? Qu'est-ce qu'elles perçoivent du fond? Comment elles se le représentent pour l'imiter aussi bien? Si je transpose le problème à l'humain, quand on essaie de se cacher, c'est un processus qui est extrêmement complexe. On n'arrive pas à se cacher quand on est tout petit. Ça arrive à partir d'un certain âge. Et il faut se mettre à la place de la personne qui ne vous voit pas.
Ouais.
Ou qui est censé vous voir. Ça demande des capacités quand même assez élevées. Il faut montrer de l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Elles le font dès la naissance.
Ouais. Sachant qu'elles ne se contentent pas d'imiter le décor, elles le complètent. Vous dites que même une intelligence artificielle aurait du mal à faire la même chose.
Ah oui, il y a nos collègues de l'Institut Max Planck qui travaillent sur le domaine. Gilles Laurent qui travaille sur le sujet, qui a montré que pour... imiter le fond, en fait, c'est pas une simple imitation comme on essaierait de faire de la peinture un petit peu figurative. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, elle perçoit toute la complexité de son environnement. Elle se la représente d'une façon beaucoup plus simplifiée. Et elle va reconstituer l'environnement, la représentation simplifiée de l'environnement qu'elle a, des couleurs, des textures, sur son corps, à nouveau d'une façon extrêmement complexe. Ça veut dire qu'elle n'imite pas la couleur du fond, elle va, d'une certaine façon, compléter le fond.
Ouais.
Par exemple, une pieuvre qui est au milieu de, je sais pas, sur du sable, avec un caillou de temps en temps, peut se mettre à imiter un des cailloux. La pieuvre ne va pas imiter forcément le sable sur lequel elle repose.
Ouais.
C'est pas une petite machine qui imite. Et c'est probablement un système cognitif extrêmement complexe, puisque, et ça c'est peu dit dans la littérature, mais on a des animaux qui le font très mal.
Ouais.
Et alors, encore une fois, quand on fait des erreurs, c'est qu'il y a une forme d'intelligence, c'est que c'est un processus cognitif complexe.
Oui, oui, c'est ça. Si on peut se planter, c'est qu'on avait le choix de faire une chose ou une autre.
J'adore voir les gens ou les animaux se planter, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière.
Et, et parfois, même quand une pieuvre dort, sa peau change de couleur.
Elle peut dormir pendant 4 heures, mais son esprit n'est pas forcément inactif. Il se pourrait qu'il soit en train d'enregistrer des informations. Pour documenter ce sommeil, Le docteur O'Brien place une petite caméra à l'entrée du repère de la pieuvre.
Je déduis qu'elle dort à la dilatation de ses pupilles, qui laisse place à une toute petite fente. Pendant environ 40 minutes, elle va être très pâle, très calme, elle va bouger très peu. Vous la verrez juste respirer. Après ces 40 minutes, on aura comme un sommeil paradoxal. Tout d'un coup, on aura des variations de couleur, des mouvements au niveau de son manteau, de ses bras et de ses ventouses. Pendant cette phase de sommeil actif, on dirait vraiment qu'elle fait des rêves.
Extrait de la série documentaire Les secrets des pieuvres de Patrick Maquin, sorti en 2024. Alors là, je veux la réaction du spécialiste. Ils y vont prudemment, ils disent « on dirait qu'elle rêve ». Déjà, est-ce que les pieuvres rêvent et est-ce que vraiment leur peau peut nous donner une idée de ce à quoi elles rêvent ?
Alors, ce qui se passe sur la peau change de couleur des pieuvres et des seiches parce que sur la peau, il y a des petites cellules qu'on appelle des chromatophores qui peuvent soit s'allumer, soit s'éteindre. En gros, il y a des chromatophores de différentes couleurs. Ces chromatophores sont directement commandés par le cerveau, donc commandés par le système nerveux. Certains collègues, dont nos collègues du Max Planck, mais aussi c'est ce qu'on fait au laboratoire, là au CNRS, étudient l'activité de ces cellules comme reflet de l'activité du cerveau. Mmh. Exactement comme on le ferait en imagerie cérébrale chez l'humain.
Vous êtes en train de nous dire que peut-être qu'en regardant la peau, la couleur de la peau changer, on peut avoir accès aux émotions, à ce qui se passe dans la tête d'une pieuvre.
Voilà, ça c'est une hypothèse qui est de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de spécialistes qui vont travailler sur les couleurs dans ce sens-là. Donc chaque cellule serait commandée par le cerveau. Donc au cours des ce qui est évoqué là dans la petite séquence, c'est qu'au cours des phases de repos, des collègues, mais on est en train de le faire au laboratoire aussi chez la sèche, mais au cours des phases de repos, certains collègues ont remarqué qu'il y avait durant ces phases de repos, il y a des phases pendant laquelle il y a des sortes d'orages chromatiques, donc de couleurs, qui apparaissent d'un seul coup sur la peau, qui pourraient, on dirait, moi j'aime bien...
Vous mettez beaucoup de conditionnels, mais allez-y.
J'aime bien. Qui pourraient être le reflet d'une activité cérébrale pendant quelque chose qui pourrait ressembler au sommeil.
Ouais. On voit toutes les précautions que vous mettez, mais ça reste fascinant. Mais évidemment, on ne peut pas affirmer, parce que on est en train de chercher, on est en train d'essayer de rentrer un peu dans la tête de ces animaux. Est-ce que on peut imaginer aussi qu'ils changent de couleur, parce qu'ils peuvent faire des motifs très particuliers pour communiquer avec leurs congénères? Est-ce qu'il y aurait un langage visuel chez ces animaux?
Mais, on a beaucoup de raisons de le penser.
Ouais.
Juste une parmi les différentes raisons, les différentes choses qui nous font nous focaliser là-dessus. L'œil de la sèche ou de la pieuvre est capable de percevoir la polarisation de la lumière. C'est quelque chose que nous, on ne voit pas. Elle voit en noir et blanc, hein, mais elle perçoit la polarisation de la lumière. La lumière est polarisée lorsqu'elle rebondit sur une surface. Et la pieuvre et la sèche, sur certaines régions de sa peau, notamment sur la tête, a des petits miroirs qu'elle peut orienter un petit peu à sa façon.
Donc elle peut polariser la lumière avec sa peau, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Elle peut percevoir la lumière polarisée, ça on le sait, on l'a déjà démontré, et elle est capable d'émettre des signaux de lumière polarisée. De là à penser qu'il y aurait des possibilités de communication cryptiques, ça serait chouette. Hein.
Ouais. Il n'y a qu'un pas que nous avons envie de franchir. Allez, on poursuit nos explorations du monde des poulpes et l'on va s'intéresser dans un instant à leurs proches cousins dans la grande famille des céphalopodes, les calmars géants.
Au grand amour, aux petits amis.
C'était Junior qui chantait Amour fou.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Alors il faut se battre en surface. Tout le monde dans la chambre de veille.
Bien, capitaine.
Purgez les ballasts. Arrêt à faire surface. Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
12 mètres de la surface, capitaine.
Tenez-vous prêt.
Extrait du film 20 000 lieues sous les mers, adaptation du célèbre roman de Jules Verne, bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie de Ludovic Dickel, professeur d'éthologie à l'université de Caen-Normandie et auteur de « À la rencontre du poulpe » aux éditions Alpha. Dans 20 000 lieues sous les mers, alors la créature qui s'attaque, là c'est décrit comme un calmar géant, on peut imaginer un poulpe. C'est quoi la différence entre un poulpe et un calmar, Ludovic Dickel?
Donc les calmars et les seiches font partie des décapodes. Donc il y a 8 bras, comme pour le poulpe, mais il y a aussi 2 longs tentacules qui leur permettent de capturer des proies.
D'accord.
Donc là, pour Jules Verne, c'est un petit peu entre les deux. La pieuvre, c'est 8 bras, c'est un octopode. Bras, et les calmars font partie du même groupe.
Font partie de ceux qui ont 8 bras. Et le calmar géant, alors, est-ce qu'il existe vraiment?
Ah ben, il existe. Il y a au début, ça depuis l'Antiquité, depuis le Moyen Âge, 13e, 14e siècle, on a décrit des calmars qui faisaient jusqu'à 3 km de taille.
Ça n'était pas vrai. C'était des mythes a priori.
Je ne sais pas ce qui n'a pas existé.
Ah oui.
On ne sait pas.
D'accord. C'est bien. Vous restez ouvert. Mais oui, oui, c'est bien. J'aime bien. Vous me faites rêver.
C'est peu probable. Non, on a décrit des calmars de la taille du Nil. Maintenant, on sait que les calmars géants existent. Ils ont probablement inspiré les auteurs de l'époque. Les plus gros, c'est le calmar colossal. Je crois que ça va jusqu'à 400 kilos, quand même.
Ouais.
Entre 12 et 14 mètres de long.
Et pendant longtemps, il a fallu se contenter d'observations sur des animaux morts, qu'on repêchait ou qu'on trouvait échoués sur des plages. Mais on commence à avoir des images, des films, et notamment, alors ça remonte un peu, c'était l'un des premiers, un chercheur japonais, Tsunemi Kubudera, qui avait réussi à prendre en photo, en conditions naturelles, dans les profondeurs, un calamar géant. C'était en 2004.
Oh! 来た来てる来てる来てる、
お、これはすごい、
本物でしょこれ、
本物です。
Alors voilà, il tire sur la pas, il remonte, il tire sur la ligne. Ah, là on est à moins 720 mètres. Félicitations. Le plus intriguant sur ces images, c'est le moment où le calamar attaque l'appât. Ce que l'on peut observer, c'est que l'animal projette ses tentacules dès que la proie passe à la hauteur de ses yeux. On peut aussi voir sur cette simple photo que le calamar géant attaque sa proie d'une manière agressive, comme un chasseur qui fonce vers sa proie. Et ça, on ne s'en doutait pas. On pensait que le calamar géant était un animal assez faible. Désormais, en observant leur comportement d'attaque, je pense que les calamars géants et les cachalots doivent se livrer des combats sans merci. Dans un sens, la réalité rejoint le mythe.
Ludovic Dickel, est-ce que, à partir de ces quelques films, de ces quelques photos, on peut vraiment imaginer que, dans les profondeurs de l'océan, il y a des combats titanesques entre des calmars géants et des cachalots?
Ah oui, vous êtes assis devant quelqu'un qui l'imagine souvent et puis qui l'a imaginé depuis longtemps.
Ouais.
On a la chance de travailler sur des animaux qu'on n'a quasiment jamais vus.
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont été filmés à de rares occasions, sinon ils proviennent de la pêche, mais on les garde pas parce qu'ils sont pleins d'ammoniac.
Ah oui.
Donc ils sont
totalement immangeables. Ah, hein. Oui. Ouais. Y a une petite quelque chose qui peut surprendre, c'est que les yeux des calmars géants sont énormes, hein, de la taille de ballons de basket. Ils vivent à 700 mètres de profondeur, donc a priori dans une obscurité absolue à ces profondeurs-là. Il fait déjà noir, le soleil est complètement filtré par l'eau. Alors à quoi ça leur sert ces gros yeux?
Ah ben, il y a pas mal de, je pense, de proies qui doivent être luminescents à ces profondeurs-là.
La bioluminescence, en fait, c'est ça qu'ils captent.
La bioluminescence, il est possible que ça leur serve à ça. D'autre part, on ne sait pas jusqu'à quel, de temps en temps, ils doivent remonter dans la colonne d'eau, par exemple pour pondre, hein, puisque les petits peuvent pas se développer à des températures aussi basses. On ne connaît pas leur biologie.
Le kraken, vous nous rappelez ce que c'est que le kraken?
Ah, le kraken, ça date de Pontoppidan, on va dire, en 16e siècle. C'était le monstre qui peuplait toutes les mers nordiques, hein, l'Arctique, etc. Et c'était une sorte d'île qui sortait de l'eau, qui avait une forme kraken, ça doit vouloir étymologiquement, ça doit vouloir dire racine d'arbre ou quelque chose comme ça. Donc qui a la forme d'un arbre retourné avec dont les racines sont en l'air et qui se refermait sur les bateaux qui étaient en son centre.
Donc ça c'est
de la taille du Nil. Hein.
Oui, c'est ça, de la taille du Nil. Donc c'est dans les légendes, mais si je vous entends bien, vous vous dites, vu ce qu'on a observé, ce qu'on a exploré des océans, on peut pas fermer complètement la porte.
Moi, je fermerai jamais la porte à des choses. Il est très difficile de, il est facile de montrer que quelque chose existe. Il est très difficile de montrer que quelque chose n'existe pas. Donc, je me dis, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors, il existe quand même des traces qui montrent que ces pieuvres intriguent et fascinent, inspirent les humains depuis très longtemps. Dans la grotte Cosquer, il y a des pieuvres qui sont représentées sur les parois?
Les spécialistes des pieuvres vont vous dire que c'est des pieuvres, les spécialistes des méduses vous diront que c'est des méduses. Mais c'est probablement un animal qui a fasciné très tôt. Et puis, personnellement, ça ne m'étonne pas beaucoup.
Oui, c'est ça, cette fascination. Et en plus, la représentation laisse penser qu'ils les ont vus vivants, ils les ont observés sous l'eau, ces hommes préhistoriques.
Oui, probablement. C'est très difficile à déterminer. Il faudra demander à des spécialistes. Hein.
Ce qui frappe, c'est que ces animaux, vous nous l'avez dit, sont dans les océans depuis des centaines de millions d'années, avec une résistance, une résilience extraordinaire. Parmi leur capacité à faire face aux imprévus, si un requin leur croque le bras, ça repousse.
Ça repousse.
Ouais.
Avec la stratégie du voilà, je te laisse un bras, mais tu me laisses tranquille. et puis le bras va repousser. Donc tout ça sont des choses qui ont été étudiées un petit peu, mais qui devraient faire l'objet de plus de recherches, parce que quand un bras repousse, il y a aussi les nerfs qui repoussent, il y a plein de choses qui repoussent pas, hein, chez les vertébrés, chez les mammifères en particulier. Donc tout ça, il devrait y avoir des recherches là-dessus.
Ouais. Et puis il y a aussi, là on entre aussi dans un chapitre fascinant, la façon dont les poulpes se reproduisent. Là aussi c'est très exotique, on va dire. On peut en donner quelques exemples, parce qu'en plus, chaque espèce a un peu sa spécialité. Comment
Alors,
ça se passe?
Il y a 800 espèces de céphalopodes, hein, puisque les groupes des calmars sèches et pieuvres, c'est ce qu'on appelle des céphalopodes, hein, la tête sur les pieds.
Ouais.
Et chez les poulpes, la reproduction a lieu grâce à le mâle, porte sur un de ses bras, qu'on appelle, c'est un bras qui change de forme, qu'on appelle le bras ectocotyle, et il va amener des petits sacs pleins de spermatozoïdes dans la cavité paléale de la femelle. C'est extrêmement délicat.
Ouais.
Le problème, c'est que chez certaines espèces, les femelles sont pas très réceptives, voire même ont envie de manger le mâle, par exemple chez l'argonaute ou chez d'autres espèces. Alors chez l'argonaute, par exemple, le mâle est beaucoup plus petit que la femelle.
Ouais.
Quand la femelle voit un mâle, elle le mange. Donc le mâle a trouvé entre guillemets une stratégie, c'est que donc il va mettre ses spermatozoïdes sur un de ses bras, il va couper le bras qui porte ses spermatozoïdes, et c'est le bras qui va nager jusqu'à la femelle.
Ouais, donc c'est une reproduction à distance. Là, il y a
distance.
Aucun contact. Il envoie un morceau de bras pour aller féconder la femelle.
Ouais.
Mais ce qui fait que, autant dire que pendant des années, les scientifiques n'ont rien compris au mode de reproduction de cet animal.
Alors, chez l'argonaute, on pensait que la femelle était pleine de petits vers, de petits parasites.
Ce bras qui venait la féconder, on pensait que c'était un vers parasite.
Ouais. Donc ça.
Et le mâle, on a eu du mal à l'identifier, hein, finalement.
Le mâle ne ressemble pas du tout à la femelle. Et chez le poulpe à anneau bleu, pareil, la femelle est très... Le poulpe qui est très toxique, là.
Mm-hmm.
La femelle est très agressive vis-à-vis du mâle. Donc le mâle, pour calmer la femelle, il la mord, il lui injecte un petit peu de venin. Et ça la calme, et il vient lui apporter ses spermatophores.
C'est-à-dire que ce venin dont vous nous avez dit, si on nous pique avec, ou en tout cas si on nous mord avec le bec, on est sûr de mourir, donc il est ultra toxique. Pour la femelle, elle est quand même relativement immunisée, parce que ça lui fait juste un peu l'effet d'un sédatif. Quoi.
Voilà, et le mâle utilise ses capacités de la femelle pour qu'elle soit un petit peu calme.
Allez, suite et fin de notre exploration du monde des pieuvres, dans un instant avec notre invité Ludovic Dickel.
Everybody cries, everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone. In every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody.
everybody please. Front.
C'était David Byrne qui chantait Everybody Love sur France Inter dans le temps d'un bivouac et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
J'ai plongé et wow, une autre grande pieuvre se trouvait tout près d'elle. L'accouplement a alors commencé. Elle n'est plus sortie de sa tanière. Elle a cessé de s'alimenter et de chasser. Elle se consacrait à ses œufs au détriment de son organisme. Elle agonisait lentement et sa mort devait coïncider avec l'éclosion de ses œufs. Ça a été un choc pour moi de réaliser que cet invertébré, ce mollusque, sacrifiait sa vie pour ses petits. Une fois éclos, des centaines de milliers de petits sont partis dans la colonne d'eau. Peu après, le courant a emporté hors de l'abri leur mère, à peine vivante. Les poissons l'ont dévorée. Les charognards sont arrivés en nombre. Ça m'a brisé le cœur.
Extrait du film documentaire « La sagesse de la pieuvre » couronné par un Oscar en 2021. Film qui met en scène un plongeur, Craig Foster, qui se prend d'amitié pour un poulpe et qui va le suivre et interagir avec lui pendant un an. Vous l'avez vu hein, ce film, Ludovic Dickel, vous qui êtes spécialiste des poulpes et des pieuvres. Vous avez même pleuré à la fin.
Je l'ai vu et j'étais très ému. Oui.
Ouais. Mmh. Cette fin qu'il décrit, ça se passe toujours comme ça chez les pieuvres. Elles se sacrifient pour que leurs petits naissent.
On va dire de façon plus scientifique, elles sont des espèces qui sont semelles pares. Donc les parents meurent avant la naissance des petits. En fait, les générations se succèdent sans se rencontrer.
Oui, ça veut dire qu'il n'y a aucune transmission. On a dit que c'était un animal extrêmement intelligent, qui avait certaines pratiques, certains comportements. Ça n'est pas le fruit d'une éducation. Aucun parent ne lui a appris à faire ce qu'il fait.
Compliqué quand on est persuadé que l'intelligence, l'origine de l'intelligence, c'est la culture, c'est les comportements sociaux, c'est de penser que là, il n'y a pas.
Ouais. Mais manifestement, c'est le cas.
Les petits arrivent à être intelligents tout seuls.
Ouais. Il y a aussi, dans ce film documentaire, l'attachement clair d'un humain pour un poulpe. On a l'impression, lui a l'impression, que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que ce poulpe le reconnaît, est content de le voir arriver, il lui prête, hein, avec un peu d'anthropomorphisme, tout un tas de sentiments. Vous, le scientifique, est-ce que vous nous dites qu'il est possible qu'un poulpe ressente des émotions et s'attache ?
Ah, il est possible qu'un poulpe ressente des émotions, ça, c'est oui. S'attache à un humain, je ne sais pas, mais le poulpe peut s'attacher à la boucle de son ceinturon ou à une vis de son appareil photo, aussi bien qu'à l'humain. Mais il me plaît de penser que l'humain puisse imaginer qu'il y a un attachement de l'animal vers lui. Hein. Oui. C'est très rassurant pour moi.
Oui. Même si, du coup, vous nous dites que c'était peut-être pas réciproque, c'était peut-être juste la boucle du ceinturon. Allez, en 30 secondes, quand les humains auront disparu, est-ce qu'il se pourrait que les descendants des poulpes dominent le monde, que ce soit les futurs animaux intelligents qui prennent le dessus sur la planète ?
Peut-être que les poulpes dominent le monde déjà depuis très longtemps, et puis nous, on a l'impression de le dominer. Alors que... Non, c'est vrai que ce sont des espèces qui vivent très très peu de temps, donc elles évoluent, sont des espèces qui évoluent très très vite. Ils sont beaucoup moins sensibles au changement de l'environnement que de la réchauffement climatique que d'autres espèces qui vivent plus longtemps, des espèces intelligentes qui vivent peu de temps.
Donc a priori, peut-être mieux partis que nous pour affronter les temps à venir.
Oui.
Ouais. Merci Ludovic Dickel. Je rappelle le titre de votre livre, À la rencontre du poulpe, aux éditions Alpha. C'est un format poche, hein, 9 euros, ça se glisse facilement dans les bagages et c'est absolument passionnant. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac.
Merci beaucoup.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Très bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.